trois questions assez rapides. Les deux premières sont techniques et s'adressent à vous, la première, c'est de l'anonymisation. Est-ce que ce n'est pas tout simplement un leurre ? À partir du moment où on est face à des données en quantité massive, on peut anonymiser, mais on peut tout aussi bien réidentifier tout ce qui a été anonymisé. Il me semble qu'on tombe par des solutions en haut et qu'il faut prendre ce problème-là en considération. La deuxième, c'est tout ce qui est du contrôle des algorithmes que vous avez évoqués. Vous avez parlé de la question de rendre transparent les logiciels, les algorithmes, en disant qu'il y avait une certaine limite à cette possibilité-là, puisque justement, on pourrait considérer que c'est protégé par le secret commercial. Je crois que le problème est plus profond. Le secret est peut-être essentiel, bizarrement. C'est un peu le problème de PageRank. PageRank doit être secret pour que nous ne soyons pas stratégiques dans l'utilisation que nous faisons des logiciels, enfin des algorithmes dans ce cas-là. Si nous connaissions son fonctionnement, nous le questionnerions sur un mode qui serait stratégique et finalement le résultat serait plus intéressant. Ça, c'est une deuxième remarque. Et puis alors une remarque d'ensemble un peu à tous les deux, un peu provocante. En quelque sorte, vous posez le problème en vous demandant comment faire, en partant de l'idée que la justice humaine fonctionne et en vous demandant dans quelle mesure une justice artificielle peut fonctionner aussi bien. On peut, et c'est une pure provocation théorique, mais on peut partir aller dans le sens exactement inverse. On peut se dire que la justice humaine ne fonctionne pas et que la justice algorithmique que vous proposez fonctionnera encore plus mal. Parce que c'est ça qu'il faut répondre à Laurent Alexandre, c'est justement que pour l'instant, l'intelligence artificielle est aussi bornée que l'intelligence humaine. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est aussi raciste, aussi habitée de justice de classe, etc. Et que c'est ça justement qu'il faut travailler. Donc ça veut dire inverser totalement, semble-t-il, le questionnement. C'est comment se servir éventuellement des algorithmes pour créer du décalage par rapport à nos habitudes. Effectivement, je crois que notre justice humaine est très, très biaisée, hein, pour employer le mot que vous avez employé, Antoine. Mais la question est de nous demander alors comment travailler. C'est bien parce que pour l'instant, hélas, les algorithmes, effectivement, répètent nos discriminations. Peut-être sur un mode indirect et plus sur un mode direct, ils restent discriminatoires.
Ouais.
Oui. Alors, l'anonymisation est-elle un leurre? Je pense qu'il ne faut pas le penser comme un on-off, un oui-non. Je pense qu'il faut le voir par rapport à une appréhension que les gens ont. Bon, et je vais prendre le parallèle avec une revue papier. Une revue papier, vous avez les noms qui ont été changés, c'est X et Y. Maintenant, peut-être bien qu'en faisant des recherches, vous allez trouver... parce que la décision était rendue à telle date par telle juridiction et que vous savez de quoi ça parle, vous avez peut-être retrouvé le nom des personnes. Donc je pense que les algorithmes doivent travailler sur des décisions pseudonymisées, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas facilement identifiables ou ils sont très difficilement identifiables. Je conçois que à un certain degré, on n'arrivera peut-être jamais à avoir une sécurité absolue là-dessus, mais comme je disais tout à l'heure, il faut réfléchir pour avoir un curseur qui protège suffisamment les données personnelles, tout en laissant des décisions qui sont exploitables par les algorithmes. En ce qui concerne les algorithmes, vous dites que le secret est essentiel. Moi je voudrais quand même bien... D'abord, je ne suis pas sûr qu'on soit dans le même registre que celui que vous évoquez. Et moi, je voudrais quand même bien savoir comment fonctionne l'algorithme pour être sûr qu'il n'est pas biaisé. Alors, je n'ai à l'égard de personne de procès d'intention à faire, et je ne pense pas que des gens actuellement dirigent des algorithmes dans un sens ou dans un autre, mais je dis que le danger existe, et ça pourrait exister, d'avoir une société qui contrôle un gros outil fort répandu sur les marchés, et qui dit, ben moi, c'est quand même mon intérêt qu'on... n'aille plutôt vers une concurrence plus ouverte. Ce serait quand même mon intérêt qu'on sélectionne plutôt la jurisprudence en faveur des employeurs plutôt que celle en faveur des travailleurs. Je discutais hier avec un avocat qui se plaignait, qui fait beaucoup de préjudice corporel, on va parler tout à l'heure, et qui se plaignait que quand il avait des décisions intéressantes, il communiquait à l'éditeur, comme la ligne éditoriale n'était pas intéressée par ces décisions-là, ben, ces décisions n'étaient pas publiées alors qu'elles avaient un intérêt scientifique important. C'est ce biais-là qu'on ne peut pas reproduire au niveau des algorithmes, d'autant que ce sera beaucoup plus difficilement détectable. Et donc, il faut un moyen de contrôle. Et honnêtement, je ne dis pas que je sais quel est le moyen de contrôle idéal. Voilà, je vous laisse pour la dernière question.
Oui, une observation, alors là, un constat. Aucun esprit humain ne maîtrise l'entièreté du phénomène, depuis le phénomène physique courant ou pas courant, le code, le langage de programmation, l'algorithme et le développement. Aucun. Ce qui n'est pas sans poser de problème, mais ça je reviendrai peut-être dans mon topo qui sera plus théorique sur comment comprendre ce qui se passe. Donc si vous voulez, c'est un véritable... ce qu'avait déjà anticipé Turing, entre parenthèses. Hein. Turing avait dit, dans un article de 52, il dit, avec ce qu'on est en train de mettre en place, il y a très peu de gens qui vont être capables de comprendre la médiation qui est mise en place par l'informatique, à la différence de l'écriture, où l'écriture, tout le monde la lit, et quand on est alphabétisé, on maîtrise l'écriture, on la maîtrise complètement, il n'y a pas de loup. Alors, en ce qui concerne la justice, je dirais qu'il y a deux différences. Il faut bien sûr pas réduire la justice à sa production institutionnelle. Qu'est-ce que c'est que la justice? Si je reprends la définition de Justinien, c'est l'effort constant et obstiné de rendre à chacun le sien. C'est un effort, c'est une volonté. C'est pas une production nécessairement imparfaite comme toute volonté humaine. Et puis deuxièmement, il y a une réflexivité. Et qu'est-ce que c'est qu'un procès si ce n'est qu'une instance de réflexivité de tout ce qui a été fait, et tout ce qui est fait dans les actes de procédure pour les réexaminer, les contester, etc. Or, c'est précisément ces deux choses qui manquent dans la justice prédictive. Il n'y a pas de volonté, ou en fait il y en a une, mais elle est cachée, on ne sait pas où elle est. On pense que tout s'opère derrière la froideur et la mécanique du calcul. En fait, c'est pas vrai. Il y a une intention dans le programmateur, et puis il y a une décision d'arrêter le calcul infini. Donc ça, c'est bon. Et puis il n'y a pas de réflexivité, parce qu'il n'y a pas de langage.
Vas-y Raphaël, parle bien fort.
Ça permet de rebondir sur la question du langage, m'interpelle en fait à propos de la question du domaine de travail de ces algorithmes. Parce que nous avons aussi un peu perplexe, voire sceptique en entendant lesquels arrivent, que vous ne reliez pas tout à fait, mais vous faites dans une certaine mesure l'écho par rapport à l'avenir de la profession d'avocat ou l'impact que peut avoir cette justice prédictive. Je comprends très bien que cette justice prédictive, elle puisse fonctionner à la manière des algorithmes qu'on connaît comme dans Google ou autres, sur base de similitudes textuelles. Hein, donc, par exemple, il y a X milliers de procès où il y avait tel montant qui est indiqué pour les revenus des parents, et on en déduit qu'il y a tel montant de pensionnement versé. Une pure similitude dont on déduit une vérité, ou en tout cas un risque d'une sorte de vérification sur le produit. Mais là où je ne comprends pas, c'est comment ces algorithmes pourraient qualifier eux-mêmes ou apprécier une situation de fait. Je donne un exemple très simple, je crois qu'il faut être concret pour essayer de comprendre comment toutes ces choses fonctionnent. On a un médecin qui essaie d'opérer un patient, et puis le patient meurt, donc il n'est pas censé mourir. En droit, on va quelque part se demander, est-ce qu'il a commis une faute ou est-ce qu'il n'a pas commis une faute? Est-ce qu'il est raisonnable ou pas déraisonnable? Mais comment introduire ça dans la machine? Tout ce qu'on peut mettre dans la machine, c'est qu'il y a un médecin, il a opéré, la personne est morte, on peut éventuellement uploader le rapport des services. Mais comment est-ce que la machine va pouvoir comparer ce cas à d'autres cas dès lors que dans le choix des mots utilisés pour décrire le cas, figure déjà la réponse? Si on dit que le médecin a opéré de manière négligente, automatiquement, il y a une faute. Si on dit qu'il a opéré, comme on aurait fait, etc., raisonnablement négligent, un peu dans placé aux mêmes circonstances, il n'y a pas de faute. Mais en introduisant les données dans l'algorithme, on a déjà prédéfini. Alors comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ça? Est-ce que vraiment ces algorithmes vont vous permettre de résoudre des cas comme ça, ou au fond, ils vont éviter de nous dire ce qu'on sait déjà?
Alors, votre exemple est très bon, parce qu'il est très étudié aux États-Unis. Je pense à un article, notamment, un article qui porte là-dessus. Alors, L'argumentation des juristes est la suivante. Ils disent dans le problème du droit, c'est que c'est un instrument qui est très grossier, et très grossier par rapport à ce que proposent aujourd'hui les algorithmes. Pourquoi est-ce qu'il est grossier ? Parce que